Was will man nur, ist das Kultur, dass jeder Mensch verpönt ist. Der klug und gut, jedoch mit Blut von eigener Art durchströmt ist. Dass gerade die Kategorie vor dem Gesetz verbannt ist. Dem Gefühl bei Lust und Spiel und in der Art verwandt ist. Und dennoch sind die meisten stolz, dass sie von anderem Holz.
Le vendredi 16 mai 2025, deux pavés de la mémoire des Stolperstein ont été dévoilés au 19 rue des Grandes Arcades à Strasbourg. Un Stolperstein à la mémoire de Joseph Martus et un autre à la mémoire d'Eugène Egerman. Tous deux condamnés pour débauche entre hommes et débauche contre nature du fait de leur homosexualité. Des lycéens du lycée Marc Bloch ont travaillé sur leur parcours.
Eugène Egerman est né en 1912 à Erstein. Il était célibataire et exerçait comme comptable à Strasbourg. Lui-même vivait ici, au 19 rue des Grandes Arcades.
Joseph Martus est quant à lui né en 1909 à Kirlar, près de Karlsruhe, en Allemagne. Il était marié et père d'un enfant de 5 ans. Il travaillait comme policier au pays de Bade depuis la fin des années 1920 et avait été muté en septembre 1940 à Strasbourg, suite à l'annexion allemande de l'Alsace.
Le 31 mars 1942, la femme de Joseph Martus s'est plainte au supérieur de son mari, car ce dernier se montrait distant avec elle. Cela éveilla les soupçons et Joseph et Eugène furent arrêtés.
Il reconnut finalement avoir eu des relations avec Eugène, mais affirma ne plus avoir entretenu celle-ci après avoir pris connaissance du décret du Führer du 15 novembre 1941. Celui-ci prévoyait la mort pour les hommes de la SS et de la police ayant eu des relations homosexuelles.
Le 15 mai 1942 est subi la sentence. Sa mort pour cette relation jugée comme contre-nature par le régime. Joseph se vit également exclusivement de sa propre nation et condamné à une peine de prison pour s'être évadé et avoir libéré Eugène.
Eugène Egerman, quant à lui, fut jugé le 4 novembre 1942 par le Landgericht de Strasbourg et condamné à 2 ans de prison au titre du paragraphe 175 du Code pénal allemand.
En 1942, Eugène Egerman fut incarcéré à la prison de Mulhouse. En avril 1944, il fut déporté au camp de Schirmeck. Après ces événements, la trace d'Eugène se perd, bien qu'on sache qu'il survécut à la guerre.
Quant à Joseph Martus, son sort fut encore plus tragique. Après avoir été détenu plusieurs mois en prison, il fut fusillé le 10 août 1942 à Stuttgart, à l'âge de seulement 33 ans.
Jade, élève de première sur le travail de classe avant la pause des Stolperstein.
On a commencé par une visite des archives et après on a fait un travail du coup sur les Stolperstein et on a peaufiné ça au lycée plus tard après. Je connaissais tout ce qui est camp de concentration, camp de Schirmeck. En revanche, je ne savais pas qu'on pouvait du coup les honorer avec tout ce qui est Stolperstein et autres. On a préparé un texte sur la biographie de Joseph Martus et Eugène Egerman, donc les deux personnes persécutées par le régime nazi.
Floriane Variera, s'adjointe à la maire de Strasbourg en charge, entre autres, de la lutte contre les discriminations, dans son discours inaugural.
À cause de la haine des nazis, qui les considéraient comme contre nature, à travers eux, c'est la mémoire de plus de 100 000 hommes que nous honorons parce qu'ils furent les victimes des crimes nazis à travers l'Europe. Ce geste, nous le réalisons comme nous le faisons par ailleurs pour honorer la mémoire des Juifs, des résistants, qui eux aussi ont été écrasés par une haine d'un autre temps qui malheureusement, toujours trop vite, ressurgit dans les rues, sur les plateaux télé et dans les urnes.
La réaction de Floriane Varieras à la pause du Stolperstein.
Je suis très honorée qu'on puisse faire cette inauguration-là. En plus, la veille du 17 mai, la journée mondiale de lutte contre les LGBT-phobies, ça a tout son sens, et notamment pour la communauté queer, enfin LGBT. Le devoir de mémoire est quelque chose qui parfois s'est perdu, parce que c'est souvent des personnes qui ont été rejetées de leur famille, qui n'ont pas forcément eu d'enfants. Et donc la question de la descendance et de l'héritage de la culture passée est parfois difficile à retracer. Et donc là, je salue vraiment le travail qui a été fait par les lycéens de Marc Bloch, de rendre hommage à ce couple qui a subi de plein fouet le nazisme qui a détruit leur vie. Ça nous oblige à nous souvenir et en même temps c'est la vie qui continue et des personnes qui militent encore aujourd'hui pour l'avancée des droits. Ça permet de leur dire de dire à la communauté LGBT que leur place est dans les murs de cette ville mais aussi dans ses pavés et en tout cas qu'elle fait entièrement partie de la ville de Strasbourg.
Richard Abouaf, président de l'association Stolperstein 67.
C'est un projet qui s'inscrit tout à fait dans le projet de la Fondation de Berlin, qui a ouvert ce projet donc, non seulement aux déportés juifs de la Shoah, en grand nombre, bien entendu par millions, et donc ce projet a été également ouvert aux Tziganes, aux Roms, aux Sinti, aux opposants politiques, bien entendu, aux témoins de Jéhovah, aux handicapés, bien entendu, et également aux homosexuels. Donc c'est la première fois, effectivement, qu'en France, on commémore un couple homosexuel, dont les Stolperstein seront dévoilés dans un instant ici, donc Place Kléber, 19 rue des Grandes Arcades.
Comment ça s'est passé? C'est vous qui proposez des personnes à honorer? C'est la famille qui fait une demande?
Alors c'est la famille qui a fait une demande aux Oubliés de la Mémoire, cette association à Strasbourg. Et l'association est venue nous voir. On a étudié le projet sur le plan historique. On a transmis à Berlin. Et Berlin a demandé qu'on commémore ce couple homosexuel qui était déporté, exécuté. L'un a été exécuté, l'autre a été déporté. Donc voilà, c'est la première fois effectivement en France que ce type de commémoration a lieu.
Frédéric Stroh, chercheur en histoire contemporaine, documentariste spécialisé en histoire du national-socialisme, des homosexualités, de l'Alsace et autres territoires européens annexés.
À l'historien de rappeler que les victimes ne sont jamais des figures éthérées, mais bien des hommes et des femmes de chair et de sang, des êtres sociaux, globaux et en action, qu'on ne peut réduire et objectiver. Josef Martus, lui, a pris part au système nazi en tant que policier. Il n'en a pas moins été aussi une victime du national-socialisme. Ici et aujourd'hui, nous voulons nous souvenir que parmi toutes les injustices, parmi tous les crimes du nazisme, il y a eu celui d'emprisonner, de déporter et d'assassiner, aussi ici en Alsace, des hommes pour avoir désiré d'autres hommes, et d'ajouter les noms de Josef Martus et d'Eugène Egerman au long cortège de toutes les victimes du national-socialisme.
David Choupina, délégué régional Alsace de l'association Les Oubliés de la Mémoire.
L'objet principal de l'association a été de faire reconnaître l'homosexualité comme motif de déportation par l'État français et de transmettre cette mémoire, comme on vient de le faire par la dépose de ces deux pavés de mémoire aujourd'hui, auprès d'un public beaucoup plus large, au-delà du cercle queer ou LGBT. C'est la raison pour laquelle nous travaillons avec des lycées, avec les universités, avec des musées, pour discuter de cette question qui est souvent marginale encore.
Et sur la question sociétale de l'homosexualité et de sa visibilité à l'époque et aujourd'hui.
Les études montrent que les jeunes ont moins de connaissances des atrocités qui sont passées pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est quelque chose qui leur est moins familier que la génération de l'après-guerre, qui curieusement en a aussi peu parlé, puisqu'il y avait une certaine honte à attacher au statut de victime de la déportation ou des exactions commises par les nazis. Aujourd'hui, il est nécessaire de remettre l'histoire de l'Europe de cette moitié du XXe siècle au cœur de nos réflexions contemporaines pour l'avenir, puisque l'on voit ressurgir le négationnisme, comme j'ai eu l'occasion de le rappeler, le révisionnisme, qui est une forme plus légère, mais tout aussi nocive de l'histoire, qui est pourtant aujourd'hui acceptée par tous les scientifiques.
Et sur sa présence et celle de son association.
Vous savez, il n'a pas été facile pour notre association de s'inviter dans les cérémonies d'hommage aux victimes de la déportation, puisque vous aviez des associations de victimes qui avaient été mal à l'aise par rapport au fait qu'on évoque l'homosexualité comme un critère de persécution. Pourquoi ? Parce qu'eux-mêmes ont pu être persécutés par des homosexuels dans les camps. Ça a été un premier travail dans le cercle plus restreint des combattants, des militants qui ne sont pas spécifiquement queer ou LGBT. Au niveau de notre communauté, la prise de conscience n'a pas été immédiate. Il a fallu un long travail pour que la communauté queer, au sens large, se remémore ce qui lui était arrivé. Peut-être parce qu'il n'y avait pas de transmission directe ou très peu. J'ai cité l'exemple de Pierre Zehl, mais il est l'un des rares, avec Rudolf Bratz, à avoir publiquement pris la parole ou la plume pour évoquer ce qui lui était arrivé. Donc ce travail a dû être fait également auprès de la communauté queer, auprès d'un public encore plus large qui n'est pas concerné directement ou indirectement par les événements de la Seconde Guerre mondiale. Je crois qu'il y a encore beaucoup à faire, malgré la visibilité donnée aux LGBT. Il reste une haine viscérale qui se transmet en particulier sur les réseaux sociaux, parfois par des manifestations symboliques comme le fait de repeindre des marches arc-en-ciel à Paris, je l'évoquais tout à l'heure, ça a eu lieu dans d'autres villes. Donc je crois que l'acceptation n'est jamais gagnée en fait, même dans une démocratie curieusement. Il y a encore un travail de mémoire, de transmission et d'éducation, j'ai envie de dire.
C'était un retour de la cérémonie de dévoilement de Stolperstein à la mémoire de Joseph Martus et Eugène Egerman assassinés et déportés en raison de leur homosexualité. La chanson d'Asli Lalide, interprétée par Marie Chauvière au chant et Sonia Louvet à la harpe, est la première chanson à parler ouvertement d'homosexualité. C'était en 1920.
Was will man nur? Ist das Kultur, dass jeder Mensch verpönt ist? Der klug und gut, jedoch mit Blut von eigener Art durchströmt ist. Dass gerade die Kategorie vor dem Gesetz verbannt ist. Dem Gefühl bei Lust und Spiel und in der Art verwandt ist. Und dennoch sind die meisten stolz, dass sie von anderem Holz.
L'invité de la rédaction, Valérie Vial.